Bon, la cave coopérative représente aujourd'hui 90% du vignoble haut-alpin. Un vignoble qui a subi au cours des âges pas mal de péripéties. Il est très ancien comme la plupart des vignobles français. Il date du temps des Romains. Jadis, il couvrait les deux tiers de ce département, c'est-à-dire essentiellement les vallées des deux grandes rivières que sont la Durance et le Buëch. Au niveau de la Durance, il allait jusqu'aux portes de Briançon, puisqu'on avait des vignes tout à fait à l'entrée de Briançon, c'est-à-dire des vignes à 12 et 1300 mètres d'altitude. Aujourd'hui, l'essentiel se retrouve groupé en aval du barrage de Serre-Ponçon et de la citadelle de Sisteron, c'est-à-dire dans la partie basse du cours de la Durance, au travers de ce département, avec une petite incursion dans la vallée de l'Avance, où la cave est aujourd'hui située. Au niveau de sa production, ce vignoble a atteint son apogée sous Napoléon III avec 100 000 hectolitres. Il produisait encore 50 000 hectolitres à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui 10 000 hectolitres. On est passé essentiellement de 50 000 hectolitres à 10 000 hectolitres à cause de la concurrence des arbres fruitiers qui, après le barrage de Serre-Ponçon, a permis d'irriguer une grande partie du bassin de la Durance et donc avec des avantages commerciaux plus intéressants au niveau du fruitier, le vignoble a petit à petit disparu, à part ce noyau qui reste aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, c'est plus la même chose puisque depuis quelques années, les fruits n'ont plus le rapport qu'ils avaient et donc ce vignoble n'a plus bougé depuis maintenant 20 ans. Et il aurait même tendance à se développer si on pouvait, sachant que la vigne, bon, ben, c'est contingenté. On ne peut pas planter un hectare de vigne si on n'en a pas arraché un hectare par ailleurs. Donc, c'est un vignoble stable. Alors, la cave La Valseyroise, elle est issue du regroupement de quatre caves qui étaient à l'origine, quatre caves coopératives. Il y en avait une qui était la cave de Monetti-Alemort. Il y avait la cave de Tallard, qui était la plus ancienne, qui elle datait de 1935, et de la cave de Romolan. Alors la cave de Valserres, la cave de Monetti-Alemort et la cave de Romolan ont toutes les trois été construites dans les années 50, achevées, celle de Valserres qui a été achevée la dernière en 1953. Ces caves avaient chacune une capacité de 8 000 hectolitres. Aujourd'hui, la cave de Valserres, elle a toujours ses 8 000 hectolitres, mais malheureusement, ça ne suffit plus. On est devenu petit et des années à grosse récolte comme cette année, on a de grosses difficultés à rentrer toute la vendange. Au niveau de l'évolution essentielle, bon, on est passé de vignes traditionnelles qui ont perduré jusque vers les années 60. Là, il y a eu un petit intermède avec des vignes, avec des cépages provençaux qui ont été plantés entre
Les
les années
cépages
60 et
traditionnels, c'est quoi?
70. Alors, les cépages traditionnels, ici, c'était essentiellement le Mollard. Le Mollard, c'est un vague cousin du Gamay que l'on retrouve, qui a évolué et que l'on retrouve dans le Beaujolais. Et c'est un cépage qui était rustique, qui craignait pas la maladie, qui n'était pas très productif, mais qui ne faisait pas non plus de très grands vins. Alors, à une époque, c'est-à-dire vers les années 60, il y a eu une erreur qui a été faite, on peut dire à l'initiative des chambres d'agriculture, on a voulu mettre des cépages de type provençaux à fort rendement, tels que le cinsault, le carignan, alors qu'ils produisaient énormément, mais qui avaient de très grosses difficultés à mûrir sous nos altitudes, parce que le vignoble est toujours à 600-700 mètres d'altitude ici. Et donc, il y a eu un renouveau qui par la suite a été fait, mais seulement depuis la fin des années 80. Depuis la fin des années 80, ça s'est fait autour de la cave de Valserres, qui a dit, bon, ben, il faudrait peut-être préserver un vignoble dans les Hautes-Alpes, mais préserver un vignoble dans les Hautes-Alpes, c'est trouver des cépages pour avoir un vin de qualité. Alors, dans un premier temps, ça a été implanté un vignoble de raisin blanc. On a choisi, disons, le plus coté de tous, c'est-à-dire le Pinot Chardonnay, celui qu'on retrouve dans la région de Chablis, celui qui fait le Chablis, celui qui représente 80% des champagnes de grand cru. Et donc ces essais ont été faits il y a une quinzaine d'années maintenant. Ça a tout de suite marché. On a tout de suite eu d'excellents résultats, c'est-à-dire une qualité, c'est-à-dire des raisins qui mûrissent, alors qu'ici on est habitué à avoir des raisins autour de 10-11 degrés, on s'est retrouvé rapidement avec des 13 degrés. Et en plus, avec une période, disons, végétative beaucoup plus courte, si bien qu'on a pu tout de suite vendanger vers le 15-20 septembre, alors qu'avant c'était le 15 octobre. Et quand on vendange le 15 octobre et qu'il neige le 20-25 octobre, ben, on sait ce
C'est
qui
de
peut se
mauvaises
passer.
années.
Alors ça a été donc le premier essai, c'était d'implanter un vignoble de raisin blanc, donc de type Chardonnay, qui vraiment se continue, nous donne d'excellents résultats. On a aujourd'hui des vins qui, quand on les présente à des concours, reviennent systématiquement avec des médailles. Et nous avons engagé derrière cette réussite, disons, des cépages de raisin blanc, un renouvellement des cépages au niveau des raisins rouges. Alors, on a quand même fait une vigne d'essai. Il y a une vigne d'essai dans laquelle on a mis une vingtaine de cépages sur lesquels on fait des tests. Et à partir de cette vigne d'essai, on a déterminé trois cépages essentiels en rouge qui sont un, le Merlot, cépage du Bordelais, deux, le Cabernet Sauvignon, cépage du Bordelais, et trois, la Syrah, c'est-à-dire le cépage des côtes du Rhône septentrional, des côtes rôties, qui est le cépage unique de ces régions-là. Alors ces trois cépages, on retombe dans des périodes végétatives courtes, c'est-à-dire on ramène nos vendanges au mois de septembre. Et c'était essentiel pour nous, puisque très souvent, comme je vous le disais, on se retrouve avec au 15 octobre des périodes de gel qui commencent, des périodes de pluie, et mûr ou pas mûr, il fallait ramasser. Tandis que maintenant, on a quand même une autre marge de manœuvre. Tous ces cépages, ces nouveaux cépages, mûrissent très bien. On a des raisins qui atteignent très facilement des potentiels d'alcool de 12 voire 14 degrés. Ce qui veut dire, à terme, ne plus du tout cheptelisé, puisqu'on était autorisé à cheptelisé à hauteur de
À partir du moment où
20%.
il y a eu
À partir du
la
moment où on a
reconnaissance de l'aide au
cessé,
pays, quoi.
voilà, à partir du moment où on a ces cépages-là,
C'est ça.
plus de sucre, plus de moût concentré, alors bon, c'est un investissement en moins, et puis au niveau qualitatif, c'est quand même plus agréable de ne pas doper nos raisins avec du sucre. Une saccharose extérieure. Après, au point de vue de la vinification, ben, la cave elle a évolué comme toute cave qui ne veut pas disparaître. C'est-à-dire que par le passé, au fur et à mesure que les voyages de raisin arrivaient, on remplissait la cuve 1, quand elle était pleine, on remplissait la cuve 2 et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Aujourd'hui, ben, on a une sélection à la base, on détermine des dates de vendange en fonction des variétés. Et puis, en fonction des variétés et en fonction de l'état sanitaire, en fonction du sucre qui est contenu dans les baies, on va diriger nos raisins vers des cuves différentes. Et à partir de là, on va également avoir des techniques de vinification différentes et qui ne seront pas les mêmes pour des cabernets et des merlots que pour des syrahs ou pour des cinsauts. Au niveau de ce qui est vinifié ici, bon, ben on fait les trois couleurs, hein. On fait du blanc, essentiellement du chardonnay. On fait du rouge, qui, disons, comprend un peu toutes les autres qualités. Et on fait des rosés, et on continue à faire des rosés, comme il se faisait par le passé, sur des rosés de saignée. C'est-à-dire qu'on ne presse pas les raisins pour faire des rosés de presse. On fait uniquement des rosés de saignée, c'est-à-dire que les raisins rouges sont envoyés dans une cuve. Et au bout d'un temps qui est très variable parce qu'il est fonction de la température et du démarrage des fermentations, on va dire au bout de 24 heures, de 48, voire de 72, en contrôlant l'intensité colorante, on va dire bon, ben, on peut tirer du rosé de cette cuve. Et donc on tire un premier jus qui fera du rosé, le sol d'après se vinifiera normalement en rouge. Au niveau également de la méthode de vinification, on ne laisse pas les levures naturelles se développer. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque cépage, on met des levures qu'on a déterminées qui vont nous donner une régularité ensuite au niveau des arômes et au niveau de ce qu'on veut faire des vins. Alors on choisit, chaque cave choisit ses levures, si possible, bon, chaque région, hein. Par exemple les Champenois, il n'y a qu'une levure, c'est une PDM. Hein. Mais nous, ça nous arrive de vinifier nos chardonnays avec de la levure PDM. Et au niveau des cépages, on tend à prendre des levures à fort rendement alcoolique et à développement des arômes de fruits rouges. C'est-à-dire, on ne recherche pas des vins qui voudront se diriger vers des fûts en bois, des vins de garde. On veut des vins désaltérants, fruités, agréables à boire. Donc, on utilise des levures qui vont faire des vins comme ça. Ensuite, bon, toujours pareil, on a raccourci les périodes de vinification. Avant, les vinifications, elles duraient jusqu'à ce qu'elles durent. Ouais. Tandis que maintenant, on contrôle par la densité. Et, on dit, par exemple, à telle densité, on va décuver pour telle et telle raison. C'est fait systématiquement. Après, au niveau de l'élevage du vin, bon, on pratique le principe du collage sur tous nos vins. Tous nos vins sont collés. Alors, la plupart des vins, les vins blancs, les vins rosés, sont collés.
Une description de l'opération.
Ben, là, pardon ?
Une description de l'opération du collage.
Alors, le collage, bon, c'est le but d'un collage. Le but d'un collage, c'est de mettre en suspension dans la masse de vin un produit qui va avoir des propriétés. Un produit qui est un produit colloïdal, donc qui va se disperser dans la masse et qui aura des propriétés qui, par sédimentation, va entraîner avec lui ce qu'on veut enlever dans le vin. Si on veut enlever des protéines, on utilisera de l'argile, par exemple. Si on veut enlever des ions plus, on va utiliser du blanc d'œuf. Et bon, nous, on utilise donc des colles spécifiques pour chaque type de vin, qui sont soit de l'argile, soit une colle à base de poisson, soit une colle à base d'œuf. Mais jamais de colle à base d'œuf sans sécher. Et bon, les collages sont faits grosso modo autour de la Noël, après avoir fait un premier soutirage et avoir mis les vins au propre. Moment-là, on fait les collages.